il est très au point dans la présentation. Voilà. Donc, cette année, c'est les armes de lumière dans la ligne de la confirmation. Hein. Alors, il y a un peu un ensemble d'éléments que je regroupe, tout ce qui peut nous aider à mener le combat de la vie chrétienne. L'année dernière, on a parlé du baptême. Là, on parle de la confirmation. Et donc, je voulais ce soir vous présenter la suite du Christ selon les conseils de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Parce que je pense qu'elle concerne tout le monde. Vous allez voir pourquoi. Même ceux qui ne sont pas formellement dans la vie religieuse, c'est bon pour eux de connaître ce qu'est la vie religieuse et puis de pratiquer, c'est là sera le deuxième point, les béatitudes en appliquant certains des conseils, pas forcément les trois principaux, mais enfin d'autres conseils que tout le monde doit appliquer. Alors donc, on part de l'idée suivante, il y a donc deux points, viens et suis-moi. Ça s'adresse au jeune homme riche, vous savez. Donc on va lire le texte attentivement, mais ça s'adresse aussi à vous. Le christianisme, c'est un appel du Christ. Là, je parlais avec mon ami Mohamed Christophe Bilek, qui est converti de l'islam depuis 40 ans, qui a fondé une association qui milite pour le retour, l'entrée des musulmans dans la vérité de la foi catholique. Et il me disait, nous, on est saturés de rituels et de choses formelles, etc., de traditions, d'obligations, enfin, traditions, mauvais sens du terme. Et donc, quand on se convertit, on cherche le Christ. Viens et suis-moi, c'est ça qui nous intéresse. Alors, premièrement, dans ce premier chapitre, le but de la vie. Le but de la vie, c'est la perfection. La perfection qui est commandée absolument à tous. Parce que parfois, il y a un peu une illusion. On se dit, bon, il y a un minimum intersyndical, enfin le SMIC de la vie chrétienne, on fait ci, et puis après, il y en a d'autres, quelques malades qui font un peu plus, parce que je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Mais non, en fait, nous sommes tous invités à marcher sans nous arrêter. Et c'est la perfection et la perfection de la vie chrétienne qui est dans la charité. Ça, c'est au centre le mois dernier, on a vu le sermon sur la montagne. Et au centre de ce sermon, il y a une phrase un peu impressionnante, « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Alors, c'est un peu mystérieux. C'est mis en relation avec le fait que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants, etc. Enfin, il y a comme une invitation à devenir parfait. Et quand les spirituels réfléchissent à ça, et les théologiens, et les gens qui lisent des bouquins, on trouve que la perfection est dans deux points. Il y a un cœur de la perfection qui est l'amour surnaturel, on va dire tout de suite les qualités de cet amour, la charité, langage chrétien, l'agapé, bon. Et puis, il y a un corps de la perfection qui est les commandements. Et ça, il ne faut jamais séparer les deux. Il y a une lecture un peu légaliste, si vous voulez, dans la ligne, je ne sais pas de quoi, peut-être de l'Ancien Testament, mal compris, ou d'une certaine lecture, ou même de l'islam, ou d'une lecture très légaliste, enfin, de judaïque, qui serait de dire ce qui compte, c'est de faire les commandements, point barre. Et il y a même des juifs très observants qui disent, la conscience ne joue aucun rôle, on applique les commandements de Dieu, et bessif, quoi. Vous voyez ? Bon, donc, mais ils ont raison de dire, il faut appliquer les commandements. Il y a une autre ligne, un peu chez les cathos, qui disent, bon, la charité, c'est l'essentiel, aime et fais ce que tu voudras. Mais la phrase Saint-Augustin, aime et fais ce que tu voudras, se poursuit, si nous aimons vraiment Dieu, nous appliquons tous les commandements. Donc il y a deux aspects, il y a un cœur qui est l'âme, qui est l'amour, et cet amour s'exprime dans des actions qui sont les commandements. Et c'est ce que dit notre Seigneur dans la grande phrase que je vous ai mise, au chapitre 15 de Saint Jean, voici quel est mon commandement, vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, première caractéristique, c'est un amour qui est surnaturel, comme l'amour du Christ pour nous. Alors, quelquefois, on cite simplement le début, mais ce n'est pas du jeu. Ça, il faut aller jusqu'au bout. C'est aimez-vous les uns les autres d'un amour qui amène à la vie éternelle. Bon, premier point. Ensuite, nul n'a de plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. Donc, c'est un amour radical qui peut aller jusqu'au bout. Et d'ailleurs, on le voit dans quand on lit l'Évangile, on est frappé parce que notre Seigneur demande des exigences absolument invraisemblables. À mon avis, c'est une preuve qu'il se considère comme Dieu. Parce que nul ne peut dire, si quelqu'un n'aime pas moins que moi ses frères, ses sœurs, sa mère, sa femme et tout, il n'est pas digne de moi. Même un grand fondateur de religion ne dit pas ça s'il n'est pas au-delà de l'humain. Je crois que c'est important de le noter. Parce qu'on regarde dans les discours du Christ, on voit qu'il y a une grande beauté, mais il y a aussi une exigence un petit peu étonnante, qui s'explique précisément par son mystère. Le cœur de l'Évangile, c'est le mystère du Christ. Bon, radical. Et puis, autre aspect, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est ami du Christ, celui qui applique les commandements du Christ. et spécialement le décalogue. Donc, il y a cet ensemble-là qui nous est demandé. C'est qu'il faut que nous tâchions de progresser sur cette route, dans l'amour du Christ, de Dieu, surnaturel, radical et actif. C'est un amour qui va nous faire faire des trucs. Hein, c'est pas seulement que dans notre cœur, on aime bien le petit Jésus, mais c'est que du fait qu'on a la charité, on applique la justice, on applique la prudence, on applique la force, la tempérance, et puis 450 vertus annexes. Bon, voilà. Alors, maintenant, il y a une chose qu'il faut préciser. C'est que pour nous aider à faire ça, il y a les sacrements. C'est pour ça que je mets ça dans la ligne de la confirmation. Ouais. On ne peut pas faire ça sans le baptême et la confirmation. On est chrétien quand on a revêtu le Christ par le baptême et quand cette grâce du Christ s'est portée à incandescence pour l'action par la force de la confirmation. On est déjà chrétien dès le baptême, mais bon, voilà, il faut être confirmé aussi pour être capable de faire ces choses-là. Donc, c'est très consolant parce qu'en fait, pour faire ces trucs difficiles, on a la force du Christ par les sacrements. Et en plus, donc c'est deux éléments essentiels dans la nouvelle, les sacrements et puis les conseils, dont on va parler tout de suite. En plus, pour baliser la route et pour nous aider, il y a des places par là, n'hésitez pas. Welcome. Pour nous aider à appliquer, à vivre ça, à conformer au Christ par le baptême et la confirmation, le Christ nous dit, bon, pour appliquer au mieux les commandements, je vais vous donner des conseils d'amis. Bon, le conseil, c'est un conseil. C'est un truc intelligent, mais à nous d'être intelligents pour l'appliquer. Vous voyez ? Et dans la Nouvelle, il y a beaucoup de conseils. Il y en a énormément dans le Nouveau Testament, spécialement dans le discours sur la montagne. Donc, comme dit saint Thomas, c'est la citation que je vous ai mise, le Christ, en fait, a gardé les préceptes de l'Ancien Testament, il a rajouté la charité pour en être l'âme, hein, comme le sel qui donne du goût à tout ça, et il a rajouté les conseils pour aider à les appliquer. Vous voyez ? Mais en fait, il n'a pas changé les choses complètement. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Hein. On a dit ça un petit peu la dernière fois. Alors maintenant, quel est le rôle des conseils ? Donc, je vous ai mis une citation de Saint-Luc, mais vous la trouvez, je pense, aussi dans les autres synoptiques, les évangiles parallèles, hein, où un spécialiste, un théologien juif, spécialiste de la loi, un légiste, hein, c'est pas quelqu'un qui a fait la fac de droit, hein, chez les juifs, c'est quelqu'un qui est un théologien, qui connaît la Torah, hein, c'est les cinq livres du Pentateuch et puis les prophètes, comme on dit. Donc, mais ils avaient des gens assez pointus, hein, c'est assez intéressant de voir que le niveau était assez bon dans les facs de l'époque, quoi, dans les synagogues. Alors, sans allusion actuelle, mais bon, il y a des bons théologiens. On en a encore quelques-uns. Alors, il y a un légiste qui se lève pour emmerder le Christ. Enfin, bon, il ne dirait pas ça comme ça, mais bon, c'est un peu quand même le problème, parce que, si vous voulez, ils sont très discuteurs, hein. Enfin, si vous connaissez les méridionaux, les juifs, les nord-africains et tout, ça discute. Bah, du moment qu'il y a du couscous et de la bonne bouffe, on peut prolonger la discussion. Et c'est très bien, c'est le côté sympathique. Voilà. Mais ça n'en finit pas, et quelquefois on coupe les cheveux en quatre. D'ailleurs, couper les cheveux en quatre, c'est une expression qui vient des discussions des écoles rabbiniques. À partir de combien de poils la vache rousse n'est-elle plus rouge parce qu'elle a trop de poils blancs ? Alors, pour certains sacrifices, c'est une vache rousse. Alors, est-ce que ça marche si elle a... Passionnant. Enfin, moi, je préfère la théologie de saint Thomas d'Aquin, mais... Alors, bon, c'est une méchanceté mise à part, une méchanceté amicale, hein, c'est quand même pas très méchant. Alors, il y a un type qui se lève et qui lui dit, mais voilà, il y a un rabbi, donc Jésus s'est présenté à 30 ans, il avait l'âge canonique. Hein. 30 ans, c'est l'âge où, bon, on a, en principe, on est sorti de l'adolescence, enfin, à cette époque-là, quoi. Et donc, on est capable d'enseigner dans les écoles, quoi. Et donc, il pouvait commencer à enseigner. C'était assez libre, hein. On était étonnés parce qu'on ne l'avait pas vu tellement au pied des grands maîtres, Gamaliel, Hillel, comme saint Paul, mais il savait, il était assez bon. Voilà. Et alors, bon, il y avait des discussions. Et puis surtout, on a vu que dès le début, il prêchait avec une... Ça venait du dedans, quoi. Oui. Si vous n'avez jamais eu un grand prof ou un grand maître, hein, on a l'impression qu'il n'a pas besoin de grand-chose pour s'imposer. Dans différents domaines, aussi bien en sport qu'en science. Hein, il arrive, il paraît... Ah, tout le monde est subjugué. On a tout compris. À peine on l'a vu, quoi. Mais il paraît que personne ne faisait ça quand il rentrait dans le Collège de France. Il arrive, le mec hallucinait. C'était tellement rasoir à la Sorbonne, non. Il y avait de la concurrence déloyale, quoi. Mais alors, donc lui, il était comme ça, le Christ. Hein. Il parlait comme ça venait du dedans, parce qu'il connaissait la leçon à fond, parce qu'il expliquait ce qu'il voyait en son père. Alors donc, le scribe le tente, il dit, mais quel est le plus grand commandement, etc. Comme on va dire, quel est le plus grand saint, c'est Jean-Baptiste ou c'est Saint-Joseph ou... Voilà. Et quel est le plus grand commandement ? Alors, lui, il lui répond par l'Écriture. Là, donc, c'est imbattable, quoi. Qu'est-ce que tu lis dans l'Écriture ? Et alors le scribe lui récite le Deutéronome. Hein? Mais évidemment, le Christ va ajouter quelque chose. Hein? Dans le texte qu'on a, le Christ ajoute quelque chose. Mais enfin, en gros, c'est le Deutéronome. Hein? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Alors saint Thomas, réfléchissant à ça, dit le cœur, c'est l'intention. Oui. Le matin, quand je me lève, j'ôte toutes mes actions à Dieu. Voilà. Donc toutes mes actions, voilà, j'ai l'intention d'honorer Dieu dans mes actions. Que vous mangiez ou que vous buviez, faites-le pour la gloire de Dieu. C'est bien vu. Hein. Bon. De toute ton âme, c'est-à-dire la volonté, hein, il faut l'appliquer pour diriger l'ensemble de nos actions, hein, tous les commandements, etc. Tous les actes que nous faisons pour appliquer les préceptes sont faits dans l'amour de Dieu. Hein, voilà. Ensuite, toute ta force, après, il faut les mettre en acte, hein, il faut y aller, et tout ton esprit, ça c'est la connaissance, et ton prochain comme toi-même. Hein. Donc c'est une citation partielle du Deutéronome, complétée par le Christ. Mais évidemment, quand on voit un programme pareil, c'était déjà dans l'Ancien Testament. Hein. C'est quand même assez impressionnant, vous voyez, parce que quelquefois, on sépare trop l'Ancien du Nouveau. Hein. Je crois qu'évidemment, il y a beaucoup de Nouveau dans le Nouveau, mais enfin, c'est quand même un développement divin de l'Ancien. Bon. Et donc, pour faire un truc pareil, eh ben, c'est pas possible. C'est pas possible tout le temps, quoi, parce que bon, on dort, parce qu'on est distrait, parce que on fait autre chose, parce qu'on est perturbé, parce que voilà, enfin, vous constatez bien, c'est pas très facile de garder ses résolutions. On a dit, bon, on dirait notre chapelet, quand est-ce qu'on le cale et tout, bon, l'oraison, bon, tout ça, la messe, hein, la lecture spirituelle, bon, dur, quoi, hein, question d'emploi du temps, quoi. Hein. Bon, alors comment faire? Alors justement, pour ça, le Christ donne des conseils. Les conseils, c'est pour appliquer le précepte principal. Comment faire pour que les actes d'amour de Dieu que je fais, que je dois faire, c'est le but de la manip, soit le plus fréquent, hein, et le plus intense possible. En fait, le but de tous les conseils, c'est ça. Hein. Et donc, c'est quelque chose de malin. Hein. C'est pas bison futé pour aller au ciel, mais pas loin. Quoi. Je sais pas comment ça s'appelle, mais ça va peut-être changer. Mais voilà, donc les conseils. Et alors, saint Thomas nous dit, mais ça vient du fait que, en fait, les philosophes disent, bon, nos puissances de réflexion, d'action, de digestion, etc., sont tous enracinées en nous, dans notre seule âme. On a une seule âme. Hein. Mais avec cette âme, on pense, hein, on sent et on digère, entre autres. Bon, ça fait beaucoup de boulot, quoi. Ce qui fait que les cours sont plus durs à 2h de l'après-midi ou à 3h qu'à 9h du matin. Bon. Simplement parce qu'on est occupé à faire autre chose. Je digère, donc je suis moins... Ou le gamin qui grandit, il est occupé à grandir, à atteindre 2 mètres et 100 kilos pour dépasser son papa de 20 cm. Bon. Donc pour l'instant, il est bête, quoi, c'est l'âge ingrat. Quoi. Et non, mais c'est un peu trivial ce que je vous dis, mais en fait, en gros, c'est quand même vrai. Quoi. Le cœur humain se porte avec une chose, avec d'autant plus de véhémence qu'il est dégagé des autres choses. Hein. C'est pour ça que les gens distraits, vous voyez, enfin, mesdames, si vous épousez un astrophysicien, ne vous étonnez pas si parfois il a un air un peu égaré. Tu es en train de trouver la solution, pourquoi il y a un trou noir là qui fait 10 milliards de fois le poids du soleil. On n'a pas trouvé encore. S'il se lève à 2h du matin. Oui, pourquoi? Parce qu'il ne peut pas en même temps vous dire, ah ma chérie, comme tu as mis ton corsage est magnifique aujourd'hui et tout. Il est en train de penser à son trou noir, le mec. Bon, ou autre chose. Bon, voilà. Les soucis qu'il a au boulot avec son patron qui ne reconnaît pas sa valeur et tout. Ou sa déclaration d'impôt qui est incompréhensible. Donc, pendant ce temps, il ne fait pas de la métaphysique, il ne fait pas son oraison. Alors, les conseils, c'est justement, pour nous inviter à la perfection, visent à justement à détourner notre affection des choses temporelles qui nous absorberaient trop. Hein, intelligemment. Vous voyez, c'est une prophylactique, si vous voulez, pour dire, bon ben, voilà, on ne peut pas tout faire, donc tâchons de nous concentrer sur quelques points, oui. De façon à ce que les actes d'amour qu'on pose soient les plus purs, les plus fréquents et les plus intenses possibles. En fait, c'est ça le but des conseils. Et ça s'adresse absolument à tout le monde, hein. Aux gens dans la vie religieuse, aux prêtres et aux gens mariés ou célibataires dans le monde. Hein. Voilà. Saint Thomas nous dit, je pense que je vous ai donné le texte, oui, pour que l'esprit tende plus librement vers Dieu dans la contemplation, l'amour et l'accomplissement de sa volonté. Je vous signale qu'il met d'abord la contemplation. C'est très important. Saint Thomas est tout à fait dans la ligne de la grande sagesse antique. hein, spécialement les Grecs, et voilà, pour laquelle la partie supérieure de la vie de l'homme, c'est la connaissance de la vérité. C'est ça qu'on appelle la contemplation. La vie contemplative, on en parlera quand on parlera de l'oraison dans un prochain... Ça sera plus général que l'oraison. Qu'est-ce que la vie contemplative? C'est chercher la vérité. Dans l'étude, dans ceci, dans cela. Bon. Mais c'est la partie supérieure de notre vie. Même si on occupe moins de temps proportionnellement. Il ne faut pas l'oublier. Et à mon avis, la civilisation occidentale est fondée là-dessus. Ce n'est pas la production qui est la première, c'est la connaissance. Parce que la connaissance nous conduit plus vers l'être que la production, qui est nécessaire aussi, bien sûr, mais qu'il faut mettre à sa place. Et actuellement, on est un peu en train de perdre le Nord, enfin, avec la technocratie, depuis une petite soixantaine d'années. On a l'impression que vraiment, c'est le fer qui semblerait dominer sur la contemplation de la vérité. Donc la contemplation, l'amour, parce que plus on connaît Dieu, plus on l'aime, et puis plus on agit pour lui. C'est vrai, là, je lisais récemment, parce qu'on lit des choses, nous aussi, les religieux, des vies de saints, c'est pas laquelle je lisais, mais c'est vrai qu'on voit l'ingéniosité des saints pour trouver des trucs à faire en fonction de la situation est quand même extrêmement fraîche. Enfin, ça nous donne la pêche. Voilà. Alors maintenant, la vie religieuse. Donc on va aborder plus spécialement suivre le Christ de plus près. C'est le terme employé par le Concile Vatican II et l'expression est juste. Hein. Tout le monde doit suivre le Christ avec des conseils. Mais le religieux, il essaye de le suivre de plus près. Voilà. De plus près, c'est-à-dire en faisant des choses concrètes qui sont déjà balisées. Mais tout le monde doit le suivre. Il faut être très précis là-dessus, parce que quand on réfléchit à choisir un état de vie, il ne faut pas se dire, je choisis de me décarcasser ou pas de me décarcasser, quoi. Je coince la bulle, ou bien je me défonce. Non, tout le monde doit se défoncer, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous me comprenez, mais c'est pas le mari, la vie dans le monde, mais c'est pas... Non, c'est tout le monde doit attendre la perfection. Alors la vie religieuse est un des chemins, quoi. C'est celui-là que je vais vous expliquer. Parce qu'il est vu de façon un peu exotique par les gens, et à mon avis un peu inexact, et c'est pas bon. Et il faut que les parents, les cousins, les frères, ou les gens qui se posent la question, voient ça d'un peu plus près, pour encourager les gens qui seraient appelés à répondre à leur appel. Parce qu'après, ça aide les prêtres, ça aide les familles, ça aide tout le monde. Voilà. Donc il y a un texte fondamental qui est très beau. Je vous l'ai mis là. Tel qu'il est donné par saint Matthieu. Hein? Un texte fameux, le texte du jeune homme riche. Alors je compléterai un peu par les expressions employées par saint Marc, hein, qui dramatise un petit peu plus les choses. C'est assez beau de voir la même scène vue par saint Matthieu, vue par saint Marc. Donc il y a un homme qui s'approche. Alors saint Marc précise, c'est pas dans le texte que je vous ai donné, il se met à genoux devant lui. Hein? Donc c'est quand même assez spectaculaire. On sent le Christ avec son groupe là. Il se déplace, donc ça fait du monde. Hein. Il y a déjà les apôtres, il y a peut-être les saintes femmes qui suivent d'un peu plus loin, les disciples. Il y a donc un groupe qui se déplace, qui va d'un village à l'autre. Bon, et puis on est accueilli, on retrouve des cousins, enfin c'est assez vivant tout ça. Et il y a un type qui interrompt la procession en arrivant vers le Christ et qui se prosterne devant lui. C'est un signe qui normalement est réservé au souverain, la prosternation. Donc il se met à genoux et dit « Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle ?» Alors là, il y a une réponse assez curieuse du Christ. « Qu'as-tu à m'interroger sur ce qui est bon ? Un seul est le bon, c'est Dieu. » Alors Jean-Paul II en a parlé dans son encyclique sur la morale. De ce passage-là, je ne reviens pas là-dessus. « Que si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Vous voyez l'importance ? Vous voyez, pour la vie éternelle, la charité anime les commandements. C'est pour ça que les catholiques ont raison contre les protestants. Du moins ceux qui disent que les œuvres ne sont pas utiles. Parce que Luther dit « Je suis sauvé par la foi ». Nous disons « Oui, mais par la foi qui fructifie dans les œuvres ». Comme le dit saint Jacques, épître dont la canonicité est rejetée par Luther justement à cause de ça. Ta foi doit fructifier dans les œuvres. Donc si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Et alors l'autre a le culot, si j'ose dire, de lui dire lesquels. Hein? C'est assez curieux d'ailleurs comme question, mais c'est une question de CM2, enfin de... Le CM1, je ne sais pas. Il savait ça tout par cœur. Hein. Alors Jésus lui récite une partie des commandements. Voilà, il récite les commandements. Et l'autre lui répond, voilà, tout cela, je l'ai observé. Et saint Marc précise, vous n'avez pas dans le texte, depuis ma jeunesse. Donc le gars était assez bon, quoi, hein, assez performant. Quoi. Et comment hein, depuis ma jeunesse. Hein. Bon. Et alors, donc ça, c'est saint Thomas nous dit, voilà, cette première partie, tout le monde doit faire ça. Voilà, si on tombe, il faut confesser, etc. On parlera de la confession au mois de mai. si on est encore vivant, enfin, si je suis encore vivant, si mes genoux me portent jusqu'à vous. Et donc, voilà. Et donc, il faut observer ça, tout le monde. C'est l'obligation. Alors après, il y a un épisode assez étonnant. Jésus le regarda et l'aima. Ça, c'est saint Marc qui note qu'il l'aima. C'est saint Marc. Fixant sur lui son regard, l'aima et lui dit. Donc, vous voyez, il y a une grâce qui est donnée. Hein, le Christ, ce jeune homme qui fait cette démarche devant tout le monde, il y a une élection propre qui lui est donnée par le Christ. Et il lui déclare, si tu veux être parfait, alors voilà la fameuse phrase qui a donné naissance radicalement dès le début, formellement peu de temps après, en Palestine et en Égypte, à la vie religieuse. Si tu veux être parfait, vous voyez, il y a deux. Il l'aime, la grâce, si tu veux, la volonté. Il y a les deux choses, comme toujours dans la vie chrétienne. La grâce et la volonté. Si tu veux être parfait, vends tout ce que tu possèdes, donc pauvreté, donne-le aux pauvres, évidemment, et tu auras un trésor dans les cieux, tant mieux. On reviendra sur la question du centuple, qui est quand même sympathique. Puis viens, suis-moi. Et alors, les théologiens, les pères de l'Église nous disent, voilà, la vie religieuse est là-dedans, vends tout ce que tu as, c'est le vœu de pauvreté, viens, suis-moi, c'est la chasteté, l'obéissance. Parce que tu ne peux pas me suivre avec famille, avec etc. Et plusieurs pères pensent que les apôtres, à partir d'un certain moment de leur vie apostolique, ont vécu comme frères et sœurs, ceux qui étaient mariés. Et les évêques dans l'Église primitive étaient comme ça aussi. Enfin, il y a des textes des conciles qui semblent l'indiquer. Donc, pour être totalement consacré au Christ, on va revenir là-dessus. Donc, la réflexion spirituelle a tiré de ce texte trois choses. La pauvreté volontaire, évidemment. La chasteté pour être consacré au royaume de Dieu. La chasteté pour le royaume. La continence pour le royaume, le célibat pour le royaume. Et puis, suis-moi, donc l'obéissance. Et donc, c'est intéressant parce que on peut remarquer d'abord, et ça, je crois que c'est extrêmement important, le Christ a pratiqué les conseils. Vous voyez, quelquefois, les gens disent, mais pourquoi les cathos, pourquoi il y a des religieux chez les cathos, il n'y en a pas chez ceux-ci, ça. Ben, parce que Christ a fait ça. Et je crois que pour des raisons extrêmement fondamentales. Alors, la pauvreté, dont je vous ai donné certains textes, un texte fameux, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Le fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer sa tête. » Il n'est pas question de pierre. Il faut que les gens rajoutent deux pierres pour mettre sa tête. Même il pourrait avoir un coussin, mais il n'en a pas. Bon. Voilà. Donc, il n'avait rien. Bon, il y avait Judas qui s'occupait de l'intendance. Il y avait quand même des biens communs. Contre les spirituels radicaux, on a bien soutenu que les apôtres avaient bien quand même une intendance. Quoi. Il y avait les saintes femmes, il y avait parente du roi Hérode qui était là, enfin il y avait ça suivait si vous voulez, mais personne n'avait rien à soi, hein, c'est Judas qui gérait le truc, plus ou moins bien comme vous savez, mais bon je ne dis pas ça pour faire de la peine aux économes parce que c'est la charge la plus pénible dans une vie religieuse, moi je ne suis pas mais enfin mon pauvre, j'admire beaucoup surtout que chez nous il porte un nom qui n'est pas poétique, c'est syndic, c'est une tradition américaine, c'est syndic, chez les Benitas c'est le Célernier. On voit un peu plus le Célernier, il y a du pinard et tout. Mais c'est vrai, chez Benita, il y a plus de monde que chez nous. Enfin, je vous dis ça pour nuancer le choix de votre forme de vie. Voilà. Alors, après, il y a un autre texte de saint Paul qui est très important. C'est Notre Seigneur qui était riche, parce qu'on va, revenir avec Pascal là-dessus. Notre Seigneur est riche, mais il se fait pauvre pour nous. Donc, notre Seigneur qui était riche se fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. C'est très très profond comme expression, vous voyez. Dieu n'a pas besoin d'être riche sur la terre, on va revenir là-dessus. Par contre, qu'il soit pauvre, c'est une richesse pour nous. Je vais refermer, ne vous inquiétez pas, ceux qui sortent de la bronchite comme moi. Mais il faut survivre aussi avec elle. Bon, ensuite, la chasteté, très intéressant. Le Christ ne s'est pas marié. N'en déplaise aux amateurs de trucs délirants et de soi-disant évangile de Thomas qu'on retrouve, pas de bol, il se gourde de parchemin, mais bon, on connaissait déjà tous les apocryphes. Le Christ n'est pas marié, il n'a pas fondé de famille, mais il a rétabli la dignité du mariage en rétablissant l'indissolubilité, la monogamie, et la famille, il a soutenu à fond, en la vivant pendant 30 ans à Nazareth, et en disant, attention, les enfants, c'est hyper important, tout le monde doit les respecter, devenir comme les petits-enfants. Vous voyez, c'est quand même intéressant, il n'a pas fondé de famille. Bon. Ensuite, l'obéissance. Alors, je vous ai mis un texte tiré de Saint Jean. Hein. Le Christ, en fait, est venu pour obéir. Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Vous voyez, en fait, le Christ a appliqué le plan prévu dans la Trinité, hein, qu'il avait mis au point avec son Père. Ils ont eu le temps parce qu'ils avaient l'éternité. Et puis, à un moment donné, ils sont arrivés, non, 15 milliards d'années après le Big Bang, c'est hop, hein. Ils arrivent, tac, et puis il y a un plan qui se déroule. Mais le plan était prévu depuis 2000 ans, hein, dans les psaumes, dans les prophètes. Hein, on a fait une conférence là-dessus. Et donc le Christ obéit aux prophéties. Quand Saint-Pierre lui dit, mais non, pas de passion, il dit non, comment est-ce que les prophéties s'accompliraient ? Ouais, c'est très impressionnant, ça. Le Christ vraiment rentre dans quelque chose qu'il a programmé dans la Trinité, mais qui est coûteuse. Hein. Bon. Donc, il a pratiqué les conseils. Et c'est vraiment étonnant, parce que contrairement à d'autres fondateurs de religion, comme Murtambhad, hein, Mahomet, ou bien Sakyamuni, pour le bouddhisme, qui est plutôt une philosophie, eh ben, c'est différent pour eux. C'est des princes, ou c'est des conquérants, c'est des gens qui ont beaucoup de femmes, qui ont beaucoup de fric, qui ont beaucoup d'esclaves, qui conquièrent le monde. Vous voyez ? Alors, mais il y a d'autres fondateurs de religion un peu différents. Mais vous remarquerez qu'ils sont après le Christ. Comme disait Bergson, en étudiant l'histoire de l'humanité, j'ai remarqué qu'il y avait une césure, et ce qui est après le Christ, c'est différent de ce qui est avant. Objectivement, quoi. C'est comme, même si vous n'êtes pas chrétien, il est quand même un peu obligé de dire ça, quoi. Alors pourquoi il a fait ça ? Ben, c'est Pascal qui nous dit pourquoi. Et c'est très profond, hein. Et je pense que ça milite tout à fait en faveur de la vérité de sa mission. Donc j'ai mis un texte de Pascal, en partie, là je l'ai plus complet ici. Dans les pensées, qu'il n'est pas interdit de lire, au moins certaines d'entre elles. Hein. Parce que Pascal n'a pas pu faire la politique qu'il attendait, mais il a pris des notes et c'était quand même un grand génie. Les saints ou leur empire, ça c'est pas dans le texte que vous avez, je crois, qui commence un peu après. Leur éclat, leur victoire, leur lustre, et n'ont nul besoin des grandeurs charnelles ou spirituelles. Où elles n'ont nul rapport. C'est-à-dire que, si vous voulez, Pascal vient d'expliquer qu'il y a trois domaines. Il y a le domaine des corps, où Alexandre, César sont champions. Le domaine du matériel, enfin le temporel, la conquête et tout. Il y a le domaine de l'esprit. Alors il cite Archimède. On pourrait citer Newton, Einstein, Pasteur. Bon. Et puis il y a le domaine de la charité. Et alors il dit entre les corps et les esprits, il y a une distance infinie. Et entre les esprits et la charité, il y a une distance infiniment plus infinie. Et là, Pascal est un génie parce qu'il a compris le Schmilblick. C'est vraiment ça. Et en fait, Archimède s'en foutait pas mal de conquérir des trucs. Quoi. Un vrai savant, à la limite, il s'en fiche de ne pas être élu au Sénat. Il n'a pas le temps, souvent. Enfin. Puis ça lui semble tellement... Enfin, il aime ça, si vous voulez. Il ne méprise pas la politique. Le type un peu équilibré est très important, la politique. Hein. C'est architectonique des autres choses, de leur pratique. Hein. Mais, voilà, c'est quand même en dessous. Je suis désolé. Et la charité, donc Archimède, il n'a pas eu besoin de faire des conquêtes pour prouver que ses théorèmes étaient vrais. Quoi. Hein. Et la charité n'a pas besoin de trouver E égale MC2 ou je ne sais pas quoi, ou l'équation de Schrödinger, ou la théorie des cordes, ce qui n'est pas encore vérifié, avant tout le monde, pour prouver qu'il a raison dans le domaine religieux. Mais Pascal est un génie, réfléchissez un peu à ça. Et donc après, il y a la partie que vous avez, hein, de la citation. Donc ces gens-là, ils n'ont pas besoin d'être approuvés par les politiques ou par les intellectuels. Ils sont vus de Dieu et des anges, et non des corps et des esprits curieux. Cela leur suffit. Et maintenant, la citation que vous avez, « Jésus-Christ, sans bien et sans aucune production en dehors de science », c'est impressionnant, quand même. Parce qu'il n'a ni fait de politique, ni fait ni fondé une académie. Hein. Mais de ce qu'il a dit est sorti la vraie métaphysique, hein, semble-t-il, à mon avis. Enfin, ça a aidé à accoucher la vraie métaphysique et donc aussi la science moderne. Mais ça serait un autre discours. Bon, enfin, il ne s'en est pas occupé directement. Il n'a point régné. On lui a reproché, mais... Que certains des juifs n'ont pas voulu le reconnaître parce qu'ils estimaient que le Mashiach, hein, le Messie, loin, était un roi conquérant qui rétablissait une autonomie politique, théocratique, de façon à ce que la vérité religieuse soit assise sur une force politique influençant le monde entier. Mais elle n'a pas fait ça, point. D'ailleurs, comme dit Pascal, je ne veux point du Messie qu'il se figure. Il n'a point fait de guerre, il n'a point écrasé ses ennemis, mais c'est en ça qu'il m'est aimable. C'est quand même assez fort. Hein. Bon, parce que souvent on peut discuter à perte de vue, quoi. C'est le musulman qui dit, ouais, mais Mohamed, il a conquis le monde. Ouais, ben, faut voir comment. Hein. D'abord, c'est pas tout le monde, enfin, nous, on n'est pas encore totalement conquis. Enfin, il y aura quelques-uns qui se battront pour qu'on ne soit pas totalement. qu'on ne conçoit pas le café caté interdit par la charia. Parce que si on sort au Caire, je ne pourrais pas vous faire le café caté, les gars. Même en Mauritanie, c'est inscrit dans la Constitution qu'un musulman qui se convertit est condamné à mort. La Constitution. Hein. Bon, donc, calmos. Quoi. Donc, voilà. Il n'a point régné. Il a été impatient, saint, saint Dieu, terrible démon, sans aucun péché. Oh, qu'il est venu en grande pompe et en prodigieuse magnificence aux yeux du cœur et qui voit la sagesse. Vous voyez. C'est en fait la pauvreté, la chasteté, l'obéissance du Christ, le rendre accessible, si vous voulez, le rendre maniable, le mettre près des pauvres et le mettre en dehors des grandeurs qui peuvent se concurrencer mutuellement. Vous voyez. Quand on dit dans la liturgie, quand on fête l'épiphanie, on dit « Ô Hérode, ne va pas craindre ce roi ». Il n'enlève pas les royaumes temporels, celui qui donne les royaumes éternels. Oui. Et constamment, actuellement, dans notre réfectoire monastique, on lit la vraie histoire des Cristeros, hein, écrit par Hugues Kerali, c'est très bien écrit. Et c'est un bon bouquin. Et alors, justement, les Cristeros, c'est des insurgés mexicains qui sont battus pendant 3 ans contre des lois iniques et qui opprimaient la liberté de la religion. Et pourquoi je vous parle des Cristeros? Eh bien, parce que ces gars-là, voilà, ils étaient en opposition avec un pouvoir qui craignait l'Église, qui s'opposait à l'Église, qui considérait l'Église comme une puissance politique néfaste. Oui. Et c'est une histoire qui se répète un peu indéfiniment. Quelquefois, quand, moi, il y a 30 ans, j'ai lu un bouquin, je me disais, bon, c'est dans le bouquin, mais en fait, ça se renouvelle. Quoi. Vous êtes plus à même que moi de faire des applications pratiques. Mais c'est vrai que c'est assez curieux. Moi, je suis toujours étonné. Je me dis, mais au fond, est-ce que le christianisme est fort? Moi, j'ai l'impression qu'on est nul, quoi. Mais vu des ennemis, non, pas tellement. Mais vous faites ça, mais est-ce que c'est. Ah, vous n'êtes pas vraiment républicain, ou je peux quoi. Enfin, d'ailleurs, on retrouve, c'est marrant, parce que je connais un petit peu, là, enfin, comme vous, surtout les historiens, là, la période citoyenne, donc 89, 1800 et quelques, là, où tout le monde se tuait tout le monde sous prétexte de citoyenneté. Et c'est marrant, on retrouve exactement le même vocabulaire. Ça, j'ai été frappé, c'était il y a 20 ans à peu près. Ça, on a ressorti citoyen, machin. Enfin voilà, mais donc ils reviennent toujours à leur vomissement. Mais je crois que c'est parce que c'est assez fondamental. Et en particulier, dans les persécutions, très souvent, les premiers qu'on attaque, c'est les religieux. Enfin, ça a peut-être changé maintenant avec Internet, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans les persécutions classiques, on commence par blabouler les contemplatifs qui ne servent à rien. Après, c'est les sortes de charité qui, soi-disant, ça fait un peu quelque chose. Il ne faut pas me désenver, là. Alors, les gens crèvent, mais ça ne fait rien. Mais, après, c'est les enseignants, qu'est-ce que vous enseignez ça, les curés, bon, juste dans votre sacristie. Bon. Et c'est un schéma, c'est un scénario assez bien rodé. Normalement, c'est aberrant. Point de vue politique, c'est aberrant. Le mec qui fait ça ne fait pas de bien à son état. Mais il le fait. C'est marrant. Hein. Je crois qu'il doit écouter quelqu'un dont on parlera plus tard. Quelqu'un qui a des oreilles pointues et une queue fourchue. Bon. Enfin, c'est quand même assez aberrant, mais il le fait. Mais c'est peut-être pas non plus totalement aberrant. En fait, il a peut-être un peu raison de son point de vue. Voilà. Mais enfin, ce que je voulais dire, c'est que. Voilà, enfin, tout est un peu paradoxal. Donc, ce que point de vue, c'est que pauvreté, chasteté, obéissance, c'est un peu provoquant. Mais c'est une grandeur particulière, oui. Et c'est une grandeur qui touche. Parce qu'elle est désarmante. Si un mec vient avec un cimetière pour vous dire crois ou meurs, ben, tu apostasies, tu vas en enfer, ou tu dis pas va te faire foutre, parce que c'est pas le mot historique à dire à ce moment-là. Quoi. Mais tu lui dis, cher ami, etc., Dieu te bénisse, le Christ est vrai Dieu, et vrai. Boum, là, c'est, vous passez à la casserole. Là. Voilà. Mais voilà. Mais en fait, c'est normalement. Quand un type vous opprime, on a plutôt envie de résister. Enfin, moi, je suis comme ça, je ne sais pas comment vous êtes, vous. Mais le Christ ne nous opprime pas. Quoi. Parce qu'on n'est pas obligé. On est vraiment libre. Hein. Donc, il est pauvre, il est chaste, obéissant, il fait de mal à personne. Voilà. Alors maintenant, question. Pourquoi voilà, il a vécu comme ça. Et en faisant ça, d'ailleurs, ça sera une autre conférence. En faisant ça, il a amené la civilisation à se développer. C'est assez curieux. Hein, on dit, en plaisantant, les bénédictins ont fondé l'Europe, mais ils n'ont pas fait exprès. Quoi. Ouais. C'est en plus, quoi. Ils font des trucs bien, puis du coup, ça va, on commence à écrire, on fait des trucs. Quoi. Mais c'est un peu le discours bernardin hein, de Saint-Pierre, c'est bien vu. Alors donc, maintenant, pourquoi il y a des gens qui désirent le suivre, vous voyez. Sous l'influx de la grâce, il y a des fidèles hein, qui suivent le Christ dans l'application des 3 conseils fondamentaux, parce qu'il y a beaucoup de conseils. Hein. On va le redire tout de suite. Hein. Mais les 3 fondamentaux, enfin les trois plus énormes, si vous voulez, parce que quand on les applique, ça vous sort de beaucoup de choses. Et quand on ne les applique pas, on est impliqué dans des devoirs qui nous prennent beaucoup, qui sont très bons, mais qui nous prennent. Voilà. Alors, la suite du Christ, donc, dans la pratique effective de ces trois choses, pauvreté, chasteté, obéissance, ça vient de la grâce, Jésus le regarda et l'aima. Donc, il y a une grâce de Dieu, ça c'est vrai. Mais il y a aussi, si tu veux, donc c'est les deux facettes. Hein. Je crois que là, les gens compliquent beaucoup trop les choses. Hein. Dieu est tout puissant, je suis libre. Ben, les deux choses sont vraies en même temps. Comment ça se fait que c'est vrai en même temps? Tu ne peux pas trouver la solution. C'est impossible. J'en parlais récemment avec un garçon qui est venu pour retrouver un peu la foi au couvent, parce qu'il perd la foi tous les trois ans, tous les cinq ans. D'angoisse, je crois. Enfin, je ne sais pas s'il la perd vraiment, mais bon. Enfin, il s'est confessé, il a retrouvé la foi. Bonne nouvelle. Mais en plus, il est très intelligent, il a toujours plein de trucs extraordinaires. Mais alors, il y a ce truc, oui, mais la toute-puissance, la liberté. Mais il n'y a pas de réponse, hein, mais spéculative. On voit qu'il n'y a pas d'incohérence, mais comment ça se combine, c'est impossible. Il y a la grâce de Dieu, il y a notre liberté. Ouais. Mais c'est aussi mystérieux que comment Dieu peut-il exister, lui qui est infini, et moi qui suis fini, et Dieu ne me détruit pas. Comment l'être infini existe-t-il, et moi qui suis fini, j'existe. Alors vous, ça vous paraît évident, parce que vous êtes des bons Français, un peu que j'existe. Le coq gaulois est un animal qui fait cocorico quand on lui donne un coup de pied au cul. C'est un de nos voisins, Churchill, qui paraît-il qui dit ça. C'est un peu méchant, mais un peu de vrai aussi. Alors, ouais, nous, les Français occidentaux, les droits de l'homme, machin, moi, c'est évident que j'existe. Dieu, peut-être pas, quoi. Hein. D'ailleurs, Dieu n'existe pas, et puis allait donc trouver un plombier le dimanche. Hein. C'est un humoriste anglo-saxon qui disait ça aussi. Enfin, alors, les anglo-saxons, on va pas aller là-dedans, parce que... Mais donc, on peut pas... Vous voyez, le fait que nous existons, on est fini. Dieu existe, il est infini. Comment tu peux exister? Dieu prend toute la place. Eh bien, il n'y a pas de réponse. On existe vraiment. Dieu existe, on le prouve, on le sait, voilà, on le croit, en plus. Mais nous, on a trouvé, enfin, on arrive à vivre là-dedans, les Occidentaux. Mais les Hindous et les Bouddhistes, non. Pour les Hindous, Dieu est tout. Je suis une facette de Dieu. Pour les Bouddhistes, je ne suis rien. Je ne suis pas de personne. Et ce n'est pas des imbéciles, ces mecs-là. Hein. Il y a des milliards de gens qui ont pensé ça. Et le christianisme, enfin, l'Occident a résolu, a mis en place ce problème. L'homme existe avec sa dignité, Dieu existe avec sa puissance. Voilà. Mais comment les choses se combinent, ça reste quelque chose, je dirais, qui par construction nous dépasse. Si Dieu existe, il est nécessaire, vous voyez, que je ne puisse pas exprimer les solutions concernant les choses de Dieu comme j'exprime des problèmes de mathématiques ou de physique. Sinon, ça prouverait que ce n'est pas Dieu. Il faut faire très attention, parce que si on veut exprimer les choses en termes rationalisants, on fait pas de la foi aux gens, parce que c'est pas vrai. Il reste quand même, voilà. Donc il y a la grâce de Dieu et puis la liberté de l'homme qui répond. Et précisément, il y a une grâce. Tous ne comprennent pas ce langage, je vous l'ai mis dans le résumé, mais cela seulement à qui c'est donné. C'est-à-dire que bon, c'est vrai qu'il y a une grâce qui est donnée de celui qui dit bon bah oui, je vais suivre les trois conseils. Et je vous ai mis une partie d'une citation de Romano Guardini, donc un théologien allemand de l'entre-deux-guerres et un peu après la dernière guerre, qui réfléchit sur la virginité chrétienne et qui dit, qu'est-ce que vous voulez, c'est quelque chose, et on ne peut pas la déduire. C'est le Christ qui nous dit, c'est bien. Et le fait qu'il l'ait fait nous prouve que ça ne marche pas. Il dit, c'est quelque chose qui permet de réaliser la vie chrétienne, voilà. Et alors, il y a quand même une partie de sa recherche qui est assez belle. Peut-être faut-il dire que l'amour ne peut pas s'exprimer tout entier vis-à-vis de l'homme. Et c'est vrai même dans le mariage. Hein. Parce que celui-ci reste trop petit. Bien que votre femme soit parfaite, c'est certain, votre épouse, ça c'est clair. Hein. Surtout votre fiancée, enfin la femme aussi. Parce qu'il est impossible, de le saisir dans sa dernière intimité. Attention, si elle est franciscaine et que vous êtes dominicain ou jésuite... n'empêchait pas d'être ce qu'elle est, quoi. Non, mais c'est important, ça. Il y a des gens qui admettent pas, ils veulent manger tout. C'est pas bon. Parce qu'il reste toujours trop lointain. C'est vrai que c'est un peu fascinant. Hein. Même le mystère de la beauté, au fond, il n'y a pas de parole devant la beauté, elle est lointaine, elle est insaisissable. Si je veux saisir la beauté, je la détruis. C'est une pensée de Simone Veil très profonde. Tu ne peux pas mettre la main sur la beauté. C'est précisément ce qui se contemple. Et je crois que dans l'amour, il y a quelque chose comme ça. Donc, je ne peux pas, si vous voulez, il y a quelque chose qui restera un peu distant ou insatisfait dans l'amour humain. Peut-être cette expérience douloureuse et cet échec relatif de l'amour humain font-ils pressentir à l'homme qu'il y a encore un autre amour, mais qu'il est impossible de le réaliser à l'égard d'un autre être humain. Et en fait, la virginité, c'est l'actuation de l'idée que l'amour total ne peut être réalisé que vis-à-vis du Christ, sous tous les aspects. Et que tout ce que nous aimons, bien sûr, selon la gradation des amours conjugales, amitié, etc., parental et tout, et c'est dans le Christ qu'on fait. Mais enfin, absolument, c'est le Christ. La révélation nous fait connaître cet amour, cette virginité. C'est là le mystère de la virginité. En face de lui, toutes les objections tirées de la psychologie et de la morale sont misérables et blessantes. Et c'est tout à fait vrai. Quelqu'un qui expérimente la virginité, le baratin du progressiste local ou du gaucho recuit dans son hachiche, ça n'a ni queue ni tête. C'est des gens qui ne vivent pas la dimension profonde des choses. Celui qui vit la virginité, c'est parce que Christ a vécu. Et donc c'est possible. Il en a la grâce, mais le Christ l'a vécu, donc c'est pas idiot, quoi. Dire la virginité, c'est où la chasteté parfaite d'un continent, c'est un truc qui diminue les hommes, ça les rend rabougris, machin bidule. C'est dire le Christ, c'est un être rabougri, machin bidule, quoi. Ça va pas, hein. Et franchement, il y a un vrai problème. Vous voyez, le christianisme nous est donné. Et il nous est donné dans la figure d'un être qui n'a pas fait de politique, qui a obéi, qui a été pauvre et qui n'a pas fondé de famille. Alors ça ne diminue ni la richesse, ni la politique, ni la famille. C'est ce qui les a mis à leur vraie place. Vous voyez ? Mais lui, il a fait comme ça. Donc, par les trois conseils, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui veulent les faire ? Deux raisons. Une raison mystique, fondamentale, et une raison secondaire et ascétique. La raison mystique, c'est le Christ l'a fait. Donc, voilà, on a envie de suivre le Christ. Il a fait ça, ben on fait comme lui. Voilà. Et c'est bon. Oui. Et faisant ça, il se donne en sacrifice. La dimension de l'Holocauste, si vous voulez, il a donné ses biens, son temps, son obéissance, ses affections humaines qui ont été... il en avait, hein. La famille de Lazare, Marie-Madeleine, sa famille, etc. Bon, ses apôtres, Saint-Jean, bon. Mais tout ça a été... placé par rapport au salut. Et le religieux, si vous voulez, faisant comme le Christ, il donne ses biens temporels, s'il en a, ses affections, enfin, il les met dans le Christ, enfin, en tout cas, il n'a pas d'affection conjugale ou parentale, alors il a son tube, qui est la paternité spirituelle, d'accord, qui est pas mal aussi, mais bon, voilà. Il a pas, et puis la disposition de son temps, enfin, il a des grandes lignes qui lui sont données par la règle et par l'obéissance, et donc elle est faite comme un sacrifice. Et tout ce qu'il fait, c'est un acte de religion, de un saint culte, quoi. Comme le Christ. Donc c'est assez grand quand même, vous voyez. La religieuse qui soigne les lépreux avec ses vœux, elle avait fait son ordre de raison le matin, elle soigne les lépreux, elle fait un acte liturgique. Parce qu'elle est consacrée. C'est aussi simple que ça, parce que le Christ a fait ça, quoi. Donc voilà la raison fondamentale. Donner au maximum, le Christ a fait ça, vous voyez, dans les méditations de saint Ignace. Je ne vais pas dire notre père Saint-Ignace, mais notre grand-oncle, si vous voulez, notre cousin, Saint-Ignace de Loyola, dit, voilà, le Christ a fait ça pour moi, dans la passion, méditation, troisième semaine. Que ferais-je pour le Christ ? Qu'as-tu quitté pour le Christ ? C'est aussi une vision d'un bienheureux jour d'Anne Saxe. Il hésitait à rentrer dans l'ordre, de deuxième maître de l'ordre, après Saint-Dominique. Et il a une vision la nuit, il était chanoine, il avait original d'Orléans, je ne sais pas. Enfin, un grand des fondateurs de l'ordre. Il a une vision du Christ qui lui apparaît. Qu'as-tu jamais quitté pour moi ? Le lendemain, il rentrait dans. Enfin, moi, je n'ai pas eu de vision, mais. Voilà. Mais c'est vrai, c'est une question. Moi, je pressais ça la veille de. Enfin, le 31 octobre, le jour de la Toussaint. Dans demain, sur les tombes, posez-vous la question : qu'ai-je quitté pour le Christ ? Je crois qu'il faut se poser la question. Voilà. Donc, le religieux, raison mystique, il veut faire ce que le Christ a fait, et ce faisant, il fait un acte de sacrifice, mais c'est très beau. Mais vous voyez, attention, le sacrifice, c'est pas un truc qu'on se dit, aïe, 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 qu'est-ce que ça va être dur, les mecs, et tout, mais aïe, je vais faire ça. Non, mais alors là, on le fait pas, quoi. Non. Et je vais pas épouser une telle qui est quand même super bien, et tout. Puis j'aurai des enfants, ils auront les yeux bleus, et tout. Oh, ils sont trop craquants, bon, alors là, c'est sûr, le mec, c'est fini. Hein, c'est... La vocation, c'est pas des mecs qui contemplent qui sont en train d'abandonner, hein. Et sinon, ils font rien, quoi, les gars. C'est que le Christ envahit la conscience. C'est sûr que les filles sont jolies, que le monde est beau, que l'astrophysique est intéressante, enfin, la politique aussi. Enfin, je vous cite quelques-unes des choses qui m'ont préoccupé, moi, etc., etc. L'amitié, enfin, je sais pas quoi, le chouchem, là, à côté, je sais pas s'il existe encore. Le restaurant chinois, on bouge bien. Bon, c'est bien, quoi. Mais le Christ, c'est bien. Enfin, disons que ça se dit. Enfin, vous voyez, ça vous occupe, quoi. C'est comme ça que. D'ailleurs, on fait rien autrement, quoi. Donc quand on se marie, c'est un peu pareil. Hein, parce que Voilà. On parlera du mariage l'année prochaine, à moins qu'on change de programme, parce que c'est peut-être un truc que j'ai déjà fait, parce que j'ai peut-être trop de choses à faire. Mais bon, quand on parlera du mariage, on verra qu'il y a aussi quand même la liberté, ça consiste dans le choix de ses contraintes. Ça aussi, un humoriste anglo-saxon qui a dit ça. Il faudrait que je vous le retrouve. C'est cité par Zanotti Sorkin. Je trouve que c'est très bon. La liberté consiste à choisir ses contraintes. Et voilà. Dans la vieilleuse, on choisit, les contraintes sont quand même assez sympathiques. C'est ce que Christ a fait, donc on fait. Voilà. Alors, il y a un autre aspect ascétique, c'est que, du fait du péché originel, des choses qui sont excellentes, l'argent, enfin, les biens temporels, le mariage, la fondation d'une famille, la libre disposition de son temps, tout ça, c'est excellent. Mais du fait du péché, ça freine. Je pense qu'il n'y aurait pas eu le péché originel, il n'y aurait pas de vie religieuse. Enfin, je ne sais pas si je soutiendrais ça jusqu'au bûcher inclusivement, mais je crois. Vous voyez, parce qu'en fait, concrètement, si vous voulez, on est. Il y a différentes choses un peu désordonnées qui se mettent. Les trois concupiscences dont parle Saint Jean. On a des choses, on est quand même attaché aux choses qu'on a. Quoi. C'est vrai. Pourtant, on meurt tout nu. Quoi. Enfin, on peut habiller peut-être, mais tout ça, c'est fini. Quoi. Tout le monde fait vœu de pauvreté à l'instant de la mort. Enfin, c'est pas vraiment un vœu, mais. Je lui dis, mais pourtant, qu'est-ce qu'on peut s'attacher à des trucs? C'est quand même impressionnant. Hein. Bon, et puis pareil pour les affections, pour la vie sexuelle, conjugale et tout, il y a des limites, quoi. Et du fait d'une trop grande préoccupation, perturbe. Hein. Enfin, c'est évident, tous les prêtres savent ça. Voilà. Du fait du péché. Hein. Parce qu'Abraham, tout, bon, c'était un peu autre chose, c'était très simple, bon, ils avaient le péché, mais c'est l'objection, quelle répond saint Thomas? On ne peut pas présumer d'avoir ou saint Louis, mais on va avoir cette sainteté-là. Concrètement, habituellement, c'est quand même préoccupant. Et puis la gestion d'une famille et le juste emploi du temps, hein, on en parlait avec l'un d'entre vous, c'est un vrai problème. Hein, donc quand il est déjà un peu balisé, ça aide. Quoi. C'est très concret en fait. Hein. Et on laisse un certain nombre de soucis, si vous voulez, on en trouve d'autres, d'accord, mais on laisse des soucis qui sont nobles par ailleurs. Hein. Gestion du patrimoine, éducation, etc. Mais on les laisse précisément pour que l'aspect du Christ prenne plus. Quoi. Et donc on laisse ça de côté, ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Si vous laissez parce que vous estimez que c'est mauvais, ben vous êtes martionnite ou vous êtes hérétique, quoi, c'est pas bon. Hein. Ou albigeois, enfin bon. Mais donc c'est pour des dominicains, ça irait pas en tout cas chez vous. Mais non, c'est très bon, mais de fait, ça nous accapare trop. Quoi. D'ailleurs, là, je discutais avec quelqu'un, un de nos amis qui est dans une œuvre, qui travaille en Amérique latine, et ils ont quatre branches, dont une branche de famille, avec des ménages. Et ils cherchent à faire les constitutions. Et ils ont beaucoup de mal. Parce qu'évidemment, quand vous avez une famille, ben, c'est les parents qui décident de l'éducation des enfants. C'est à eux de choisir l'école. C'est à eux de déterminer un certain nombre de choses. Dans quelle mesure peuvent-ils être inclus dans une sorte de confédération d'ordre? Ils tâtonnent un peu, c'est très beau d'ailleurs. Mais ils ont du mal, parce qu'évidemment, il faut que l'épouse soit d'accord, il faut que ce soit une vraie vocation pour les deux, il faut partir 10 ans au Pérou, à 4000 mètres d'altitude. C'est admirable, c'est magnifique, mais justement, on se rend compte que Le droit naturel des parents ne peut pas être abdiqué. Donc, il faut qu'ils gardent la maîtrise de l'éducation, la maîtrise de la fécondité. Il ne faut pas qu'ils fassent des erreurs qui ont été faites dans certains groupes, et etc. Donc, on voit bien que les conseils évangéliques sont quand même très judicieux, parce que, concrètement, voilà, ils permettent de rentrer dans une liberté spirituelle en admettant certaines contraintes. Je crois que ce qui freine les vocations, je pense, c'est une notion fausse de la liberté. D'abord, il y a une idée un peu idiote en disant, enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ça m'a toujours paru débile, c'est que les mecs qui rentrent dans la vie religieuse, ou les filles, bah, c'est parce que, bon, elles n'auraient pas réussi dans le monde, ou... Ah, quelle jolie fille, quel dommage qu'elle rentre en Carmel. Le mec qui sort de Normal Sup, qu'est-ce qu'il va faire chez Chartreux, quoi? Non, mais arrêtez, c'est souvent des gens qui ont des tempéraments, chez les religieux, enfin, je connais quelques communautés où... Il y a quand même du tempérament, ça n'a pas choix au chapitre conventuel, quoi. Et justement, si vous n'en avez pas assez, peut-être que vous allez quand même en déprimer, quoi. Donc c'est pas du tout, faut pas croire, il n'y a pas de profil de base, hein. Enfin, c'est-à-dire que voilà, Dieu choisit qui veut. Mais souvent les gens disent, ouais, mais c'est parce qu'ils avaient... Moi j'avais plein de problèmes, bon, enfin, j'ai moi, mais je suis pas le seul. C'est-à-dire que... Mais non, mais c'est qu'après on fait... Alors, donc il y a ça, le fait que croire qu'on prend que le bon Dieu... puis les parents aussi, ils pensent un peu ça, quoi. Peut-être qu'il y a le troisième qui rentre, enfin et tout, mais du moment qu'on a placé le premier, ouais. Je prie pour les vocations chez les cousins. Bon, non, mais arrêtez, il ne faut pas dire à vos enfants si vous en avez que vous priez pour leur vocation, mais il faut prier pour leur vocation. Parce que ça marche. Enfin, chez nous, ça a marché même trop, par rapport à. Enfin, trop au gré des parents, quoi. Mais... Voilà. Mais donc, voilà. Mais donc, ce n'est pas des minables forcément, ce n'est pas non plus forcément des gens géniaux, mais c'est n'importe qui. Enfin, n'importe qui. Il y a des capacités, il y a des aptitudes, il y a des attraits, d'accord. Mais si vous voulez, c'est aussi varié que la vie, quoi. Hein, d'ailleurs, on découvre toujours des nouvelles choses, quoi. La vie, c'est varié, c'est imprévu. La vie religieuse aussi, tant plus qu'il y a des charismes différents dans chaque vie. Et deuxièmement, l'autre idée fausse, c'est l'histoire de la liberté. Alors aujourd'hui, c'est la génération Y, hein, tout de suite est gratuit, quoi. Donc, les mecs, mon travail pour m'épanouir, mais je me foule pas, quoi. Donc, alors, la vie religieuse, arrête, hein, il faut. Hein, il y a une heure, il ne pourrait pas être 4 heures. Moyenne de télé, 3h50, d'après les dernières nouvelles, là. Bon, alors, moyenne d'Internet, je ne sais pas combien c'est. Je pourrais pas. Ben, arrête ton char, c'est nul, quoi. Enfin, c'est un peu dur à dégorger, d'accord, surtout si t'en as trop. Mais je veux dire, c'est que des fausses libertés, quoi. Il y a un peu la peur de renoncer à des libertés pratiques, quoi. Je ne ferai pas du snowboard tout le temps. Enfin, peut-être excellemment si j'accompagne un camp de mission, bon. Si je suis avec des prêtres qui font du karting, je ferais de moi. Mais peut-être que tous les comités. On s'en fout, putain, on s'en fout que c'est minable. Il faut être un peu chevaleresque. Non, il y a une trouille, si vous voulez. Déjà, dans la vie normale, hein, des chefs d'entreprise me disent ça. Hein. Ma petite liberté, mes droits, ben on va terminer là-dessus, mais c'est peut-être un peu trop tard. J'avais un petit portrait du chrétien à vous faire. Mes droits, mon ressenti et tout. Donc, et c'est idiot, parce que si vous voulez, certainement, on se prive d'un certain nombre de choses, mais on rentre dans une liberté bien supérieure. Et d'ailleurs, on fait des trucs, même je dirais le centuple, excusez-moi, mais moi je l'ai expérimenté, hein, puis pas n'importe moi. On découvre plein de trucs, plein de gens, enfin, des pays, on apprend des langues, enfin, on fait des trucs qu'on n'aurait sans doute jamais fait. Quoi. Hein, et puis on fréquente des gens intéressants. Enfin, on est membre d'une société internationale qui est au capital, je ne sais pas combien, peut-être pas très gros, mais enfin 1 200 000 cotisants, quoi, 200 millions de cotisants. Enfin, on fait des trucs intéressants. Mais je veux dire, même humainement, hein, en fonction de l'ordre qu'on choisit, mais surtout, c'est un peu vraiment idiot de poser les problèmes en termes de liberté. Mais est-ce que vous êtes libre, bonsoir? Vous allez épouser quelqu'un, va avoir un cancer à 55 ans. Moi, je ne parle pas au hasard, je vous dis des trucs, c'est des trucs que j'ai vécu. Hein. Un cancer à 55 ans, bon. Ou alors, il va se mourir en moto à 40 ans, en laissant 5 enfants sur le tapis, quoi. Etc. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi? Vous allez changer d'avis, ah, vous n'aimez plus cette femme parce qu'elle a un cancer et tout? On a arrêté un peu. Je crois qu'il y a vraiment, chez les chrétiens, tâchez d'être un peu différents, les gars, pour qu'on recrute un peu, comme ça qu'on puisse aider un peu, nous, puis d'autres aussi. Voilà. Mais non, parce qu'il faut quand même, faut se bouger un peu, hein. Faut réagir avant qu'on soit complètement aplati, quoi. Et vous, votre génération, vous avez du bol, parce qu'on a quand même bossé depuis 30 ou 40 ans pour vous préparer le truc, hein. Et d'ailleurs, ça marche, à mon avis. Moi, je suis plutôt optimiste, parce que, bon, les manifs qu'on faisait, nous, on était 2 ou 3 000, quoi. Enfin, j'en ai fait une le 13 mai 68, mais on n'était pas 1 400 000. Hein. Bon, mais donc, voilà, éduquer les enfants dans le sens du sacrifice, quoi. La vie chrétienne, c'est plus sacrifice, quoi. Même si vous avez du fric, surtout si vous en avez. Si vous n'avez pas ça, pas le sacrifice, c'est que vous avez du fric, vous donnerez. Hein. C'est hyper clair, hein. C'est dans l'évangile. Hein. Et si vous éduquez pas, si vous parlez tout le temps des prêtres en tapant dessus, et de religion, dans ces séminaires, ou un prêtre, ah, toi, tu ne seras pas prêtre, toi, mais t'es quoi comme religieux, t'es pas prêtre et tout. Hein. Ah, arrêtez, bon, relisez les bouquins, c'est pas du tout comme ça, la vie chrétienne. Il y a une hiérarchie, hein. Et donc, voilà, il faut estimer que c'est quelque chose de bien. Et si bon Dieu vous appelle, n'ayez pas peur, bonsoir. Moi, je suis effrayé de la... Enfin, non, je ne suis pas effrayé, parce que je suis trop vieux. Mais je veux dire que si je pouvais encore m'énerver... Enfin, je crois que je peux encore. Je veux dire, c'est incroyable quand même que les mecs sont mous, quoi, moi, je trouve. C'est hallucinant. Hein, c'est... Le père de menace, disait des arts 1943-42, ce qui manque... Non, c'est en 68. Vraiment, tout pétait dans l'ordre dominicain. Ce qui manque aujourd'hui le plus aux prêtres religieux, c'est le courage. Alors, c'est pas du volontarisme stoïcien, et puis, etc., samouraï, d'accord. Courage, ça compte aussi. N'ayez pas peur. C'est pas, voilà. Et c'est pas sur nos forces, ça se passe, c'est sur la grâce de Dieu. Et c'est vrai aussi l'histoire du centuple. Saint Jean Chrysostome dit, celui qui suit le Christ, il aura la vie éternelle dans l'autre monde et le centuple ici-bas. Et le centuple ici-bas est la preuve de la vie éternelle. Pour Jean Chrysostome. C'est vrai pour tous les chrétiens, mais spécialement pour les religieux. D'ailleurs, c'est quelques-uns que je connais qui ont vécu 7 ou 9 ou 10 ans dans une vie religieuse, et après sont partis, c'est la plus belle partie de ma vie. Mais il ne faut pas penser que c'est impossible. Moi, je trouve que c'est nul, tout ça. Bon, alors on termine rapidement sur un truc, parce que là, il faut quand même que vous alliez vous reposer pour la prochaine manif, je ne sais pas comment elle est. Les béatitudes à la suite du Christ, alors là, bon, voilà, je vous ai exposé un peu la vie religieuse. Hein. En gros, voilà, enfin, c'est bien, vous avez compris. Quoi. Voilà. Et c'est utile pour vous. Moi, je crois que c'est vraiment vie religieuse. Prêtre, famille. C'est vraiment le trépied solide. Bon, les béatitudes. Alors, les béatitudes, c'est le portrait du Christ. très important, ça. Hein, les béatitudes, je vous ai dit, vous en parlerez à part. Hein, c'est donc ces fameuses 8 expressions du Christ, heureux ceux qui, car ils obtiendront ceci. Et c'est au début du sermon sur la montagne. Et en fait, c'est un programme, si vous voulez, qui décrit le Christ. C'est incompréhensible autrement. C'est la description du Christ et du chrétien revêtu du Christ. Et qu'est-ce que c'est les béatitudes? Pourquoi on appelle ça des béatitudes? Parce que c'est des actes, et la joie de l'âme est dans l'action. Je fais des actes qui me conduisent au ciel. Donc c'est des béatitudes qui seront complètes au ciel, mais qui commencent ici-bas. Et quand vous êtes admissible, vous dites, je vais être admis. Donc vous avez la béatitude d'un acte. Oui. Quand vous faites un pas dans une direction, vous dites, je vais faire le deuxième. Ben, les béatitudes, c'est ça. On marche vers le ciel. Donc c'est sympa. C'est quand même sympa d'aller au ciel. Non, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est bien. Bon, et donc c'est les béatitudes. Alors c'est le Saint-Esprit qui fait ça en nous. Hein. J'ai fait toute une série de cours là-dessus, mais on ne peut pas revenir. Enfin, c'est des actes qui nous sont faits en nous. On fait des pas. Alors, moi j'ai classé ça en 3 grandes catégories, à la suite des auteurs. Hein. Solitaire, solidaire, rayonnant. Hein. Trois, un peu comme la vie religieuse est résumée par les frères franciscains du Bronx. Hein. Hein. No money, je ne suis pas anglo-anglo, non, enfin, vous allez comprendre. No honey et one boss. Pas de fric, pas de petit ami, un seul chef. Quoi. Ça, c'est bon, quoi. C'est à peu près ça. Quoi. Alors maintenant, quand tous les chrétiens solitaires, ben, relativement, non conformisants. Je suis content parce que il y a deux audiences générales. Le pape a dit, les chrétiens, soyez les non conformistes, les jeunes. Hein. Donc, vous voyez, je suis couvert, les gars. Non conformiste, enfin, à mon époque, c'était un peu plus anarchiste, maintenant, ça l'est moins, quoi. Le non-conformisme n'est pas anarchiste. Ouais, bon, j'ai une petite tendance anarchiste parce que bon, à l'époque, c'est différent. Alors, solitaire, solidaire ou chevaleresque et rayonnant. Et ça, c'est les 7 béatitudes principales. Oui. Mais en tenant compte du fait que toujours c'est le Christ. Hein. Le sceau des 7 béatitudes, c'est la 8e. Bienheureux êtes-vous quand on vous persécute à cause de moi. Ça, c'est la marque que c'est à cause du Christ. Donc, c'est capital. Hein. Les 7 autres, c'est à cause du Christ. Bon. Alors, la fuite du péché, on est non-conformiste. L'action, on est chevaleresque. Et la contemplation, on rayonne. Et à mon avis, c'est ça vraiment le portrait du chrétien qui nous est proposé. Le monde moderne, c'est argent, enfin le monde en général, argent, violence, jouissance. Ben, nous, on oppose le Christ, qui est seul dans la tentation au désert, qui refuse le messianisme violent, et qui est seul à la passion, il pleure. Hein? Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, heureux les doux, heureux les affligés. Vous voyez, la fuite du péché. Donc c'est assez bon, et c'est une dimension importante. Hein. Il y a nécessairement, on ne fait pas exprès de se mettre à part, mais on va nécessairement être un peu à part. Ensuite, solidaire ou chevaleresque, l'action. Alors ça s'oppose à ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Revendication, émotion, hein, c'est-à-dire en gros, mes droits et mon ressenti. Quoi. Moi, tu vois, moi j'ai droit à ça, moi. Bon, ça c'est un peu la modernité. Et donc nous, au contraire, à la suite du Christ, il y a une justice chevaleresque, qui s'occupe des droits des autres, la justice c'est le droit des autres, et qui fait du bien aux gens. Au lieu de gueuler parce qu'il y a des gens qui ont dire Dieu n'existe pas parce qu'il y a des gens qui ont faim, et ben on donne à bouffer au mec qui nous demande. C'est quand même très différent comme attitude. Hein. Donc c'est une attitude solidaire. On est solitaire parce qu'on veut pas par rapport au péché, mais on est solidaire pour tout le reste. C'est des êtres humains, c'est pas nos ennemis, c'est voilà, chevaleresque. Et c'est d'autant plus difficile, comme dit Gardini, que c'est fragile. On peut être écrasé en faisant des œuvres de bien. Voilà. Et ensuite, rayonnant. Parce que ça vient du Christ. Il y a un mystère, c'est étrange. Comment les gens peuvent-ils être comme ça? Eh bien, parce qu'il y a le Christ en eux. Et très souvent, les gens sont convertis parce qu'ils rencontrent quelqu'un qui les aime, qui les soigne, qui les aide, et on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu as l'air d'être heureux? Parce que je vais au ciel et c'est bien. Voilà. Et donc, heureux les cœurs purs, donc les béatitudes de l'action. Heureux les affamés de justice, heureux les miséricordieux. Et celle de la contemplation, heureux les cœurs purs, heureux ceux qui diffusent la paix. Et donc, il y a un très très beau portrait, très encourageant. Le chrétien est comme ça. Je dirais, il est comme ça à cause de son baptême, sa confirmation. Et il choisit, vous voyez, dans tous les conseils que le Christ le propose, s'il n'est pas religieux, il choisit tel ou tel conseil plus particulier qui l'attire davantage. Et comme ça, il rayonne le mystère du Christ. Voilà. Merci de votre attention. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas, même un peu hors sujet, je suis à votre disposition. Hélène, oui. Oui, allez-y, allez-y.
Tout à l'heure, quand vous avez dit comment on ne peut pas comprendre que Dieu qui est infini existe, et moi je suis fini,
j'ai
quand même une petite place pour exister,
voilà,
aussi. En gros. Et ça m'a fait penser à ce que notre Seigneur disait à Sainte Catherine, je suis celui qui est, tu es celle qui n'est pas.
Oui, tout à fait.
Bah, alors là, elle n'est pas.
Ben oui, non, mais il faut lire le texte complet. Hein. C'est des sujets, c'est des choses tellement difficiles. Oui, le type avec qui perd la foi tous les 5 ans, c'est un grand scientifique, docteur en maths, qui connaît bien la physique. Alors, j'ai, tu sais, c'est comme, on sait des choses sur la matière. On est certain que, par exemple, de la nature ondulatoire, de telle chose, on est certain de la nature conventionnelle. Comment ça se combine, on n'a pas encore trouvé. Oui. Mais on ne va pas dire c'est faux, cette expérience, parce que j'arrive pas à la... Vous voyez. Et alors bon, c'est un exemple qui n'est pas tout à fait adéquat, mais dans la phrase du Christ, c'est un seul aspect qui souligne. C'est que l'être que tu es celle qui n'est pas par toi-même. L'être que tu l'as reçu.
On est relatif.
Oui, on est relatif à Dieu. On est au génitif. Je crois que je vous l'ai dit une fois, pour ceux qui connaissent la déclinaison, on est un petit peu au génitif, quoi. Non, on est quand même des substances, mais... Mais j'en parlais avec l'un d'entre vous, c'est vrai que le fait que nous existions, c'est nous les créationnistes, enfin, au sens chrétien et athéiste, qui nous disons, bon, on réfléchit à ça, Dieu nous a fait, et on a reçu l'être de lui. Les Grecs se disaient, tout existe, la matière existe depuis toujours. Donc ils savaient bien qu'elle dépendait du premier moteur, mais c'était moins, il y avait un côté moins aigu que nous. Quoi. Parce que nous savons qu'à un moment donné, il n'y a pas de univers matériel. Donc il est sorti du néant par l'acte, par la pensée, le désir créateur de Dieu. Donc c'est à la fois c'est fascinant, si vous voulez, mais je disais justement à ce garçon, je lui disais, écoute, il faut faire oraison. Ou du moins au novice à qui je faisais un cours après, je disais, écoutez, face à des problèmes comme ça, c'est pour ça on parlera de l'oraison. Je pense qu'il y a, il y a deux choses vraiment indispensables. Il faut faire oraison. Pas seulement prier, il faut vraiment faire une lecture spirituelle et il faut faire le bien aux autres. C'est assez curieux. Mais celui qui est le saint, regardez les religieuses de Mère Teresa, font une heure de raison et elles passent leur temps avec les... Et elles ne sont pas scandalisées par le mal. Le type qui est plein de soupe et qui ne fait rien, il dit Dieu n'existe pas parce que si vous voulez, en faisant raison, on se met en face de l'infini, on est nourri par l'infini. Parce que quand vous êtes en face de l'Eucharistie, ben il est là, quoi. C'est l'infini qui est là sur l'autel. Et donc, moi, je change, en fait. Je crois qu'il faut bien comprendre que christianisme, c'est vraiment... Ça vient des sacrements. Enfin, si on peut faire l'année sur l'Eucharistie, le mariage et tout ça. Voilà. Donc, quand je contemple l'Eucharistie, c'est... voilà, il y a la lettre de Dieu qui se communique à moi. Quoi. Et donc, je suis plus... Pas zen, parce que c'est pas le bon terme, mais... Vous voyez, je suis plus dans le vrai. Et donc, du coup, je vais faire du bien aux gens. Quoi. Mais c'est vrai qu'on peut pas... On ne peut pas apporter une réponse comme on ferait une réponse en économie ou en droit ou en politique ou en physique. Ou... Oui ?
J'ai une question qui est complètement plus basique.
Oui, allez-y.
En quelque sorte, la hiérarchie. La vie conjugale et la vie religieuse.
Oui.
Est-ce qu'on devrait tous vivre en tant que religieux en abandonnant tous nos biens
La hiérarchie ou l'appel personnel
Est-ce qu'on devrait tous devenir religieux plutôt que certains se marient et d'autres vivent une vie
De fait, certains se marient, j'ai remarqué ça. Je crois que le problème n'est pas tout à fait bien posé. C'est vrai que d'après la réalité, le fait de suivre le Christ de plus près est plus parfait que le suivre d'un peu plus loin. pas vous dire le contraire. Là, si j'ai le contraire, je serais hérétique, donc je ne préfère pas. Parce que le Concile de Trente a défini la réponse à ce que vous dites. C'est certain. Voilà. Que comme État, si vous voulez. Mais il est vrai aussi qu'il y a des... comme dit saint Paul, chacun a une grâce. Chacun a un attrait, chacun a une grâce. Et ce n'est pas parce qu'une chose est supérieure à une autre que chacun doit la faire. Il faut faire très attention, parce que la vocation, c'est pas se dire, c'est plus unique, c'est pas uniquement se dire c'est plus parfait, donc je fais ça. C'est un peu comme la sainteté, on dit la sainteté, c'est penser que l'évangile, c'est vrai, quoi. Ben, c'est quand saint Antoine qui a fondé la vie religieuse, je vous donne la parole tout de suite. Saint Antoine a fondé la vie religieuse en entendant justement un évangile comme ça, dans une église d'Alexandrie. Il entend ça, et hop, il part, et c'est lui qui a fondé les premiers. Enfin, il est parti au désert, quoi. Donc, il a dit, tac, c'est pour moi. Voilà, ça, c'est une grâce et une volonté, quoi. Mais on ne peut pas généraliser. C'est peut-être un peu insatisfaisant comme réponse, mais.
Ben, j'ai compris, en tout cas, c'est donc que l'état plus ou moins parfait, ce ne serait pas ce qui est jugé au final, mais plus le.
Ben, attendez, il y a quelque chose qui est plus parfait en lui-même, il y a quelque chose qui m'est plus convenable à moi. Oui. Si on n'a pas les aptitudes à la vie religieuse, ou si on n'en a absolument pas l'attrait, un attrait de volonté, hein, et ben, il ne faut pas y rentrer. Oui. Pour Luther, ça a été une erreur d'entrer dans la vie religieuse. Non, mais c'est vrai. Et c'est très dramatique, hein, parce que. Il ne pouvait pas vivre l'exigence. Donc, il a inventé une doctrine pour justifier. Vous voyez, donc, ce qui est plus parfait en soi n'est pas forcément ce qui est plus, le mieux que je fasse moi maintenant. Mais celui qui est libre, qui a la volonté, qui a les capacités et la liberté, peut essayer. On dit, bah, essayez. Non ? Il y avait d'abord mademoiselle qui a posé. Vous vouliez poser une question. Et après, vous. Oui.
C'est pour les religieux.
Oui.
Et en fait, c'est pour tout le monde.
Oui, en un sens, c'est une très bonne question.
C'est vraiment pour tout le monde.
C'est très fin.
Si on n'a pas
les... Non, mais c'est vrai. Et c'est vrai que vous avez raison. Ouh là là, c'est très vrai tout ça. Je suis en train d'enseigner ça, mais non, ça. Enfin, non, non, en fait, c'est, je devrais préciser, si vous voulez, la continence dans le célibat pour le Christ, la pauvreté totale. Et l'obéissance selon une règle déterminée. Et ça, tout le monde ne le fait pas. Mais tout le monde doit vivre la chasteté de son état, célibataire, marié ou veuf. Non voilà, tout le monde doit... la pauvreté, c'est un peu différent. Pratiquer la justice, la libéralité, etc. Faire l'aumône. Et tout le monde doit obéir aux commandements et également suivre certains conseils selon son choix. J'ai pas eu le temps de développer ça, mais celui, l'avantage de la religieuse, c'est que les conseils sont déjà balisés. Mais vous, c'est à vous de trouver. Non, mais c'est vrai, moi, j'ai pas à me casser la tête. Enfin, évidemment, on a plein de missions à l'intérieur du conseil. Non, moi, je dois prêcher la vérité par tous les moyens, même l'ego. Quoi. Donc, c'est clair, je fais ça depuis 40 ans et j'essaye. Bon. J'ai même fourni un truc pour ça. Mais donc, vous voyez, c'est balisé, quoi. Tandis qu'à vous de trouver si vous allez faire plutôt telle chose, une école, plutôt simplement vous concentrer sur. Un aspect plus politique local ou plus Saint-Vincent de Paul, vous voyez ce que je veux dire. Mais il faut que vous ayez des conseils chacun à pratiquer, en plus des 10 commandements. Oui. Oui.
Et voilà, et bon, si on a envie d'essayer, on essaye.
Oui, tout à fait. C'est plus parfait comme moyen. Ça ne veut pas dire que nous, on est plus parfait que vous.
Ah oui, non, mais je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on oublie que parfois, par exemple, il y a des gens qui n'ont pas du tout envie.
Non.
Et qu'une seule envie, c'est de se marier et d'avoir des enfants.
Voilà.
Et pourtant,
qui se marie.
Dieu, lui, il a envie de s'amuser à les mettre...
Tout à fait. Non, ah non, mais cela, je ne leur dis pas. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie.
Non, mais
envie au niveau de la volonté. Hein. Mais ça ne veut pas dire... Il ne faut pas dire... que pour autant, l'état de mariage est supérieur à l'état qu'a vécu le Christ. Je suis désolé, ça, je suis obligé de maintenir ça, parce que sinon, je serais hérétique. Hein. Et puis, je suis en dehors de la réalité. Si le Christ l'a fait, c'est mystérieux, mais c'est qu'il y a quelque chose de plus, quoi. Alors, ceci dit, mariez-vous, ayez 16 enfants comme ma grand-mère. Hein. Non, mais 16, il faut quand même le faire, hein, sans jumeaux. Hein. Et qui a éduqué tout le monde. Très bien. Enfin, cartons. Quoi. Vous voyez, mais d'accord, et ça je suis d'accord. Si on n'a pas l'attrait, on n'a pas l'attrait, je veux dire l'attrait de volonté. Quoi. Et ceux qui ont les capacités, un minimum d'attrait de volonté, bon, c'est une poste. C'est pas différent du sacerdoce. Le sacerdoce, c'est l'évêque qui vous appelle. Hein. La vie religieuse, si vous voulez suivre le Christ, suivez-le.
Oui. Qui sont incapables de mener une vie comme ça.
Oui.
Et sinon, il y a quelque chose de tellement, tellement dépouillé de tout.
Oui.
Ne sait qu'il n'y a que Dieu qui vit en.
Mais c'est formidable.
Et à ce moment-là, c'est même si on n'a pas l'attrait, même si on n'a pas les capacités, oui. Même si on n'a pas le caractère, oui. Qui le vit, parce que c'est la vocation.
Mais tout à fait, vous avez raison. J'ai pas dit que tous les gens qui n'étaient pas dans la vie religieuse étaient moins parfaits. C'est au contraire, tout à. Il peut y avoir justement dans une vocation quelqu'un qui arrive à une charité supérieure, mais de soi, les moyens employés, avoués, sont plus radicaux. Et c'est vrai que enfin, moi je connais quand même beaucoup de gens mariés, beaucoup de gens pas mariés, beaucoup de religieux. Et un religieux qui observe sa règle, c'est quand même pas mal, quoi. Il est chiant un peu, tout ça. Sous les bonnes sœurs, enfin, les frères aussi. Mais je veux dire. Mais quand même, c'est très bien, si vous voulez. Et en moyenne, enfin, même quand vous avez, j'ai 40 ans, 35 ans de sacerdoce, donc j'ai un peu d'expérience, si vous voulez, ça fait quand même des gens, c'est bien, quoi. Si vous voulez, c'est des gens, quand même, ils prennent des moyens, et regardez le nombre de fondations, d'œuvres et de saints canonisés qui viennent de la vie religieuse. Donc c'est ce qu'on dit, c'est tout. Hein. On ne dit pas qu'il y a des gens, Saint-Louis était prince, hein, mais les personnes, justement, doivent suivre leur attrait. Mais il faut quand même peut-être quelquefois, pour ceux qui ont la liberté mentale de se poser la question, si vous voulez. Se la poser calmement, sans s'angoisser. Je suis là si je réponds pas. Mais non, d'accord. Il faut se la poser en dédramatisant, quoi. Moi, je crois que c'est beaucoup plus simple qu'on ne peut. De toute façon, les directeurs ou les maîtres de novice voient assez vite si justement, s'il y a une angoisse telle que, bon, bah, si vous êtes angoissé, c'est trop, ça va pas. Si vous psychotez trop, ça va pas. Parce que dans une vie régulière, comme la nôtre, vous allez encore plus disjoncter, quoi. Plus vous êtes contemplatif, plus il faut être de l'art, quoi. Plus il faut être extraverti, contrairement à ce que pensait non, là, ça va pas. Non, mais je suis d'accord, votre question était une bonne question. Alors, mademoiselle,
c'était juste, enfin, oui. C'était juste pour ajouter un petit élan, c'était pour dire qu'il y avait quand même des couples qui étaient bien heureux aussi.
Tout à fait, tout à fait. Bien heureux et même simple encore, mais ça va venir.
Oui, mais c'est connu aussi, par exemple.
Non, mais le mariage était magnifique. Hein. Si vous me suivez jusque-là, je vous montrerai. On est tout à fait d'accord. Mais je sais pas, c'est assez marrant parce que, oui, on n'en doute pas, quoi. Regardez les Martins ou d'autres. Mais quand même, hein, demandez au père Raymond qui prépare les gens au mariage, qui les suit après. C'est le mariage, on en parlait avec Gardini, c'est aussi l'œuvre d'une grâce. Hein. Faut pas croire que c'est pas que la grâce, c'est pas uniquement pour être religieux. C'est, vu la nature déchue. Non, mais c'est la réalité. Hein. C'est pour ça qu'il est tellement attaqué, tellement calomnié, parce que c'est une très grande chose. Mais enfin, de soi, si vous voulez, c'est vrai que, je suis désolé, quand vous êtes père ou mère de famille, une immense partie de votre temps est légitimement employé à gérer votre patrimoine et à éduquer les enfants, non? Voilà, c'est tout ce qu'on est. Et l'autre qui n'est ni marié ni père de famille, toute cette partie de son temps est employée à préparer des cafés catés, à écrire des articles, à parler avec les gars qui vous abordent dans la rue qui vous parleraient pas si vous étiez pas en avis. Donc si vous voyez, c'est voilà, c'est tout, c'est pas tellement plus génial, hein. Mais c'est justement fait pour les gens un peu nuls, quoi, peut-être. C'est que justement nous, on a il y a des règles qui nous aident, parce que peut-être comme prêtre séculier, ben on aurait trop de mal, quoi, parce qu'il y a trop de liberté de flottement, tout. Il y avait une question d'Eric.
Ouais, en fait,
la reconnaissance
de Dieu, il y a un état de vie qui est pour l'éternité et l'autre qui ne l'est pas.
Oui, c'est vrai. Parce qu'au ciel, on n'est pas marié. Enfin, je sais que ça vexe certains, mais il y a quand même quelque chose qui reste. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle Compagnon d'éternité. Je pense que la charité, si vous voulez, conjugale, elle est. Enfin, dans le ciel, si vous voulez, tout ce qu'on a fait dans la charité est sauvé d'une certaine façon, vous voyez, avec sa nuance propre. Et donc, je crois qu'au ciel, les époux se reconnaissent. Enfin, évidemment, ils se reconnaissent avec leur corps glorieux. Mais même, vous voyez, ils se sont sanctifiés mutuellement. Donc, c'est ça qui reste. Mais il n'y a pas le lien, Jésus le dit explicitement. C'est vrai, ça. Parce que je n'ai pas insisté là-dessus, mais c'est une chose que j'ai fait des recensions des livres de Don Gérard, le fondateur du Barou. Et il insiste beaucoup sur le fait de la vie monastique comme prophétie de l'éternité. Justement, s'il y a des religieux ou des prêtres, qui en Occident, ça ne marie pas, c'est parce qu'il y a une fécondité éternelle. Ils sont prophéties de l'éternité, oui. Donc ça, c'est vrai.
Est-ce que c'est possible d'avoir, de fait, une vie de religieux sans être religieux ?
Non. Enfin, au pied de la lettre, non. Me semble-t-il. Parce que sinon, il faut faire comme Saint Henri d'Allemagne qui avait fait un mariage joséphin avec sa femme. Donc, pas de petit bébé en bout de course. Quoi. Et puis, il faut faire vœu d'obéissance à l'évêque ou à quelqu'un. Et, parce que la vie à Dieu, c'est concrète. Hein, c'est les vœux, si vous voulez. Les vœux pour Dieu. Si vous voulez. C'est dans les moyens. C'est des moyens concrets, pratiques. Mais par contre, l'esprit, oui, il y a des gens qui sont mariés, qui ont plus, qui ont une charité, un esprit spirituel, etc. Bien supérieur à certaines religions. Mais actuellement, il y a eu un peu une tendance depuis 50 ans avec le beurre et l'argent du beurre, quoi. Faut quand même, faut que voilà, les choses sont différentes. Faut maintenir ça, sinon, à mon avis, c'est un danger pour le mariage aussi. Parce qu'il y a eu des communautés qui ont été fondées où c'était le fondateur qui décidait le nombre d'enfants que chaque ménage devait avoir. Quoi. Non, mais je ne blague pas. Hein. Donc, évidemment, ils ont eu des problèmes après. Mais je veux dire qu'il ne faut pas tout mélanger tout. Quoi. Parce que vraiment, si vous voulez, en mariage, c'est vraiment la cellule de base. Et donc, il y a vraiment les époux, enfin, et le père, vraiment, parce que l'autorité paternelle, ça existe quand même, et le chef d'une cellule, hein, qui a un droit naturel imprescriptible. Vous voyez, c'est pas même sous des motifs pieux. Vraiment, il y a l'éducation, il y a la vie commune, il y a tout ça, c'est basique. Oui,
un vrai décidément. Est-ce que le courage est lié au cœur? Parce que Saint-Michel Archange, dans sa mission à l'égard de Jeanne d'Arc disait « Toi, ma fille au grand cœur ». Et il lui a donné une mission à l'époque. Alors, est-ce que c'est lié au cœur, le courage? C'est comme cœur, c'est comme courage. Et c'est quoi ce courage? Pour un chrétien, c'est bien. Qu'est-ce que c'est que ce
courage? Mais je crois que le courage, c'est la force raisonnable. C'était, ça fait partie des quatre vertus fondamentales qu'on appelle des gonds, les cardinales. C'est l'énergie qui se déploie pour aller contre l'obstacle qui s'oppose au bien rationnel et au bien surnaturel. Et par exemple, je suis frappé du fait que dans toute une partie de la modernité, même de chrétiens, les professions qui ont exercice de la force, l'armée, ou même l'exercice de l'autorité comme prof et tout, est mal considéré parce qu'on a l'impression que tout exercice de force va traumatiser la dignité des gens. Et je pense que c'est complètement faux. Parce qu'évidemment, il ne faut pas de violence, il faut de la psychologie, etc. Il faut de l'amour. Mais justement, l'amour, une part de l'amour, c'est la force. Et donc, le fait d'accepter que la perte, de même éventuellement de corriger, vous voyez. Et donc, ça, souvent, je vois pour les supérieurs, c'est typique. Pourquoi on a du mal à trouver des évêques et des supérieurs? Parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas obéir. Pourquoi? Parce que vous allez contre leur dignité infinie, quoi. Leur demander de faire un truc, vous dites peut-être ça n'était pas très bien fait, ça, enfin, le plus gentiment possible, au meilleur moment possible, franchement, au maximum, je vous aime beaucoup et tout ça. Mais malgré tout, c'est mon droit et mon ressenti, quoi. Et c'est pareil un peu dans le vieux, dans la vie. Les évêques ont le même problème avec certains de leurs prêtres. Et je crois que c'est ça parce qu'il manque la force de dire bon, ben, le chef doit accepter une certaine solitude. C'est pareil pour les parents. Hein. Le parent qui fait trop cochon avec les enfants, c'est pas bon, surtout avec les garçons, enfin les filles aussi, je pense, mais moi je connais surtout pour les garçons. Il faut que le père soit justement celui qui donne la référence, et donc il y a une certaine, voilà, une justice, mais donc la force d'être chef, Et puis la force d'être aussi obéissant, c'est-à-dire ça coûte, mais le bien commun passe avant. Donc je suis d'accord, c'est le cœur au sens noble du terme. Quoi.
Je vous souhaite une bonne soirée.
Oui, vous aussi. Non, mais enfin, le courage, je pense qu'il ne faut pas voir la force d'une façon stoïcienne, mais il faut la voir comme une énergie au service de l'amour.
La charité, c'est l'expression de la charité aussi.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Et la liberté, vous l'avez parlé, vous avez parlé de la liberté, en fait, qu'est-ce que c'est par rapport au bien ou au mal ? Qu'est-ce que c'est que la liberté ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est philosophique,
ben, la liberté, c'est le fait que j'ai un esprit et que cet esprit saisit tous les moyens sont limités par rapport à mon désir de bonheur. C'est un peu bizarre comme truc, mais si vous réfléchissez, ça marche vraiment comme ça. J'ai un esprit, les animaux n'ont pas d'esprit, hein, je vous signale. Enfin, pas d'esprit dégagé de la matière, hein, même si mon chien est très intelligent. Bon. Mais j'ai un esprit qui fait que tous les moyens, être pompier ou être curé, c'est bien. C'est bien d'être pompier, j'ai un bel uniforme, les gamins, c'est ça. C'est bien d'être curé, il y a une soutane, enfin, autrefois. Voilà. Mais qu'est-ce que je fais ? Et en fait, tous les moyens sont limités. Ce que je veux, c'est être heureux. Les béatitudes, c'est être heureux. Donc la liberté, c'est le fait qu'on saisit que tous les moyens du monde sont limités par rapport à mon désir infini de bonheur. Donc il y a du jeu, et donc il y a un éclair mystérieux qui me fait vraiment participer presque à Dieu, si j'ose dire, qui fait, bon, tac, je choisis ça.
Donc c'est lié au bien
C'est lié au bien, mais je choisis pour le bien total. Hein. Ce qui fait que si vous choisissez un péché, vous prenez la femme du voisin parce qu'elle est jolie, mais c'est pas votre femme, c'est pas très bien, faut pas faire ça, quoi. Mais elle est jolie, il y a donc un bien particulier. Mais il n'y a pas le bien total. Il manque un bien de raison qui est la relation du mariage entre vous et elle. Et c'est important ce bien de raison. Donc en fait, vous cassez quelque chose dans l'univers et donc là, c'est du mal moral. Bien qu'il y ait un bien physique éventuellement, si vous entendez mieux sexuellement avec elle qu'avec votre femme. C'est comme ça. Hein, ça se passe. Et donc il y a toujours le péché, on le fait toujours en chassant un bien. Mais justement, ce bien est cherché dans une absence de bien total. Il y a un trou quelque part. Si vous voulez. Et donc, il y a cette, une défaillance de la liberté qui est de rentrer dans une impasse. Je vais me conduire dans le mal et finalement, bon, dans la damnation, mais j'abîme l'univers au lieu que si je suis pompier ou curé, dans les deux cas, l'univers fonctionne bien. Oui. Donc, il faut bien dire le péché enfin, est une défaillance du libre arbitre. Hein, c'est pas Dieu est souverainement libre, mais il ne faut pas de péché.
Si on est tenté par le mal plus que le bien, et oui. La liberté c'est par rapport au bien.
Vous êtes tenté sensiblement, mais on ne peut jamais dire que je suis tenté par un mal à tel point que je sois nécessité à le commettre. Sinon, c'est pas un péché. À moins qu'on perde la raison, ça peut arriver qu'on perde la raison. Il y a des cas limites où le type il est pu mettre de lui totalement. Si vous voulez, bon, mais il y a des causes qui sont coupables, mais bon, mais normalement c'est pas ça. Toujours quand même une distance par rapport. On voit les choses et puis on choisit une. Et alors justement, c'est important de. Je vous disais, la liberté, c'est de choisir ses contraintes. Parce qu'une fois qu'on a choisi, il faut rester fidèle à son choix quand il s'agit de se marier ou d'être religieux. Vous avez une question ? Non ? Ben c'est, je vois qu'il y avait des questions. C'était bien, ça.